C'est toi, la radio.
Et bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue sur C'est toi la radio. Aujourd'hui, nouvelle interview, et en plus il y a une exclue, il faut juste que j'arrive à trouver le bon moment, voilà, ici, bonjour tout le monde, comment ça va? On va parler de l'exclue, mais déjà je vais dire bonjour aux gens du chat, bonjour Litena, bonjour très chère Zelda, bonjour Wiz Davy, coucou Lindori, bienvenue, coucou, j'espère que tu vas bien, et je crois qu'on est bien pour ce soir, et bonjour Kevin Amiel, et voilà Zenibuka, bonjour. Et oui, aujourd'hui, nouvelle petite bande-annonce qui arrive sur C'est toi la radio. Bonjour Sid, j'espère que tu vas bien sur C'est toi la radio, puisque vous pouvez voir cette exclusivité mondiale, puisque Zenibuka nous en avait parlé lors de son interview au mois de novembre, je ne sais plus si c'était ça, Zeni, au mois de novembre du label qui elle a créé, et je suis ravie aujourd'hui de vous annoncer l'arrivée de ce premier repé album mixtape, voilà, tout simplement, première mixtape qui sortira le 9 juin, donc vendredi de cette semaine. Et puis en plus, il y a du beau monde hein, dans cette mixtape. On a alors attendez, je reprends la commande parce que sinon je vais en oublier. Elle est où la commande? Revenez la commande. Tu l'as, voilà, premier album. Alors on a 2984, Chou, Cinabre, Dice. Alors là, Dice, quelle voix. Landan, je pense que ça se prononce, ou Landan, je ne sais pas, je suis désolée si j'écorche. Vince Feldis, c'est pas dur pourtant, et Zenibuka. Et voilà, donc cette mixtape va sortir, je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui en exclusivité la date, parce que personne ne le savait, alors j'étais dans le secret des dieux pour une fois, et je suis vraiment ravie et honorée d'avoir cette mission pour ce soir. Voilà, donc... allez follow toutes ces personnes. Alors la moitié du cast a sa commande hein, sur cette fois la radio. Vous tapez Zenibuka, vous tapez Dice, vous tapez Cinabre, vous allez avoir leurs réseaux sociaux à toutes et tous. Mais en tout cas, pour les autres, je vous invite vraiment à vous renseigner, à aller sur le Bandcamp, à mettre votre adresse mail peut-être, je sais pas, pour être au courant un petit peu de tout ce qui va se passer. Et surtout, écoutez en boucle cette mixtape. Je peux vous dire, peut-être que j'ai écouté un petit bout et que c'est de la tuerie. Voilà, on peut même précommander, voilà. Et ben donner de l'argent, la moula, c'est le nerf de la guerre. Et voilà, encore une fois, merci Zeni et merci à toute la team et toute la team du label The Mixtape Records pour votre confiance, et je suis ravie. Évidemment, cette bande-annonce sera en boucle sur C'est toi la radio jusqu'à que le cast de la mixtape soit en direct avec moi, ici même, sur C'est toi la radio, un jour, mais je ne vous dis pas quand. Donc voilà, déjà je suis en préco, désolé, je suis en voiture, bah, pas de soucis, voilà. Donc à un moment donné, de bien belles personnes vont venir sur C'est toi la radio et on parlera de tout ça, de comment ça s'est passé, de qu'est-ce que IEL nous propose, et je suis vraiment impatiente. Voilà, donc jusque là, vous aurez cette bande-annonce qui est quand même super charmée, hein, Zeni l'a fait, je crois. Madrigal et aussi, j'ai oublié Madrigal qui est au mixage, non, mince, c'est quoi le mot déjà, Zeni? En tout cas voilà, merci beaucoup pour la confiance, et on va passer à la suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est un petit peu timé aujourd'hui. Je suis ravie, au mastering, merci pour le mastering, c'est ça. Aujourd'hui, nouvelle interview, je reçois une personne qui est déjà venue sur C'est toi la radio. Pour les plus anciens et anciennes, c'est une personne qui est venue avec son frère au tout début de C'est toi la radio, Une autre vie, voilà, où on a parlé d'une BD dont on va parler encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, Il vient tout seul et je suis ravie de recevoir pour aujourd'hui Ulysse Gris. Bonjour Ulysse.
Salut et salut à tous.
Alors déjà, est-ce que vous l'entendez bien ? Bonjour Dice. Oh Dice. Est-ce que vous entendez bien Ulysse dans votre casque ? Pourquoi ? Ah voilà. Allez, je file. Allez, bon concert, Zeni, merci encore. Oui, oui, tout le monde entend. Merci pour les follow. Merci Sid pour ton follow, c'est adorable. Merci beaucoup. Et bienvenue, voilà, bienvenue. Bon, bah, ça a l'air d'être bon au niveau de la technique, c'est parfait. On entend. Toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions à Ulysse. Vous allez voir, hein, on va papoter un petit peu de son parcours et surtout de sa nouvelle BD qui est sortie très récemment. N'hésitez pas à poser vos questions, à les mettre en surbrillance pour que je puisse les voir plus facilement. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, hein, on va dire ça, hein, comme ça. Et si je suis désolée si je vous ai raté dans le chat, voilà, beaucoup de chamboulements aujourd'hui. Bon Ulysse, est-ce que t'es prêt ?
Ouais, je suis prêt.
Ouais, ouais, c'est parti.
Ouais, c'est
parti. Alors, la question qui revient à chaque interview, et en plus, toi, il y aura peut-être des redites hein, pour les personnes les plus anciennes qui sont ici et qui ont déjà écouté ton interview avec ton frère, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Ouais, alors du coup, mon prénom, c'est Ulysse, je suis auteur de BD, je viens de La Rochelle, j'ai 35 ans, et du coup, je suis auteur de la série Un monde en pièces, dont trois tomes sont parus, et on est en train de boucler le quatrième lancement avec mon frère. Et donc je sors là une BD qui est sortie vendredi sur le climat. C'est un western climatique pour quelques degrés de plus.
Ouais, et j'ai fini de le lire aujourd'hui, donc c'est parfait. On va pouvoir en discuter. On essaiera de ne pas spoiler, promis. Je vous invite grandement à aller vous procurer cette BD qui est aux éditions Presque Lune. Voilà, une vingtaine d'euros et c'est très cool, mais on va en parler après. Moi je te connais un petit peu, t'es déjà venu et tout, ouais. mais c'est vrai qu'il y a une question que je pose à chaque fois à mes invités et puis on va passer vite de toute façon, mais toi, adolescent, enfant et tout, est-ce que t'étais déjà un enfant, adolescent qui dessinait ? Est-ce que t'as fait des études alors avant le bac, hein, évidemment, on parlera peut-être de tes études post-bac plus tard, mais avant tout ça, est-ce que tu faisais déjà du dessin ? Est-ce que tu étais, est-ce que t'as une famille artistique ? Mais ça, je connais la réponse.
Hein. bah ouais, de ouf. Moi, je dessinais, j'ai toujours dessiné depuis tout petit, j'ai pas arrêté. Mon père m'a un peu appris à dessiner, puis j'ai beaucoup dessiné avec mon frère, justement, donc c'est un peu un truc de famille. Mon frère a fait une crise d'ado et est parti dans le skate et a arrêté de dessiner, mais moi j'ai continué. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui dessine et plutôt lui qui écrit sur Un monde en pièces, par exemple. Ouais. Maintenant, j'écris aussi par ailleurs. Mais ouais, je dessinais à fond. Alors après, j'ai pas fait d'études j'ai pas pris de cours de dessin. C'est vraiment gratter tout seul du dessin depuis des années, quoi.
Ouais, à partir de quel moment tu t'es dit, je vais peut-être en faire mon métier parce que en fait, je fais ça toute la journée.
Et eh ben hyper tard,
ouais.
Du temps à comprendre, parce que j'ai fait des grandes études, j'ai commencé à bosser, et finalement, ma première BD, j'ai dû la publier vers 25 ans, donc, et là j'ai démissionné, donc maintenant je ne travaille plus à côté, même si j'ai monté avec un pote une boîte d'animation vidéo, pour parfaire les revenus de la BD, parce que c'est pas toujours évident de vivre de la BD. Donc maintenant je suis plus salarié, mais je l'ai été longtemps, quoi. Donc j'ai mis du temps à oser franchir le pas et à me dire allez, je fais du dessin, on est parti, quoi.
Ouais, et est-ce que dès le début, enfin là on va plus loin dans les années, parce que tu disais que tu étais salarié, mais t'as fait aucune étude artistique, de graphisme ou quoi que ce soit ? T'es parti sur autre chose à la base ?
Non, pas du tout.
Ouais.
Alors après, On en parlera peut-être après, mais mon parcours pro m'a amené à devenir graphiste,
Ouais.
mais en plein impro, quoi. En
Je
imposture totale. Donc,
comprends. Et
ouais.
à la base, quand tu dessinais, c'était plutôt en traditionnel. Quels étaient tes médiums de prédilection déjà quand tu étais plus petit, plus jeune, et ensuite comment ça a évolué de ce côté-là?
Alors, quand j'étais petit, alors je pense que c'est le cas de beaucoup de jeux dessinateurs d'aujourd'hui,
J'avais
je
une tablette
recopiais
graphique,
les BD que j'ai
un iPad Pro, pardon, non.
Non, à l'époque, il n'y avait pas d'iPad Pro,
Mais
alors
je
c'était
sais
vraiment
bien.
les feuilles A4, les cahiers à carreaux, et puis un petit crayon de papier, et puis voilà, je recopiais les Lucky Luke, les Gaston Lagaffe, les trucs comme ça, et puis après, petit à petit, j'ai commencé à me détacher de la copie, à faire moi-même mes propres Lucky Luke et Gaston Lagaffe et
Ah,
autres.
tu faisais tes propres scénarios des BD que
Ouais.
t'aimais bien.
Ouais. Non, non, je recopiais juste des dessins, puis après, plus tard, je me suis mis à faire mes scénarios, mes propres personnages, mes propres BD, ouais.
Ah, d'accord. Et justement, quand tu étais jeune, c'était quoi tes inspirations, mais enfin, plutôt ce que tu lisais, ou ce que tu écoutais, ou ce que tu regardais? C'était plus du côté franco-belge, alors, si j'ai bien compris.
Ouais, moi j'étais abonné au journal de Spirou,
Oui.
et alors je ne jurais que pas ça, que par ça, voilà, je l'attendais comme le Messie chaque semaine, et j'étais à fond dans tout ce qu'il publiait, quoi.
Et ouais, et tu de ce côté-là, quand on te voyait dessiner, même tu disais que ton frère, alors je rappelle, hein, c'est Gaspard Gris qui est aussi scénariste, donc d'Un monde hors pièces, on en parlera, mais voilà, tu disais que ton frère dessinait, que bah, lui aussi il avait de l'imagination et tout. Est-ce que dans votre famille, dans votre entourage, vos proches, est-ce qu'on vous a soutenu dans ce côté-là de cette fibre artistique, on va dire?
Oui, totalement. Moi, mon père est urbaniste, donc lui, il fait des plans, il dessine pas mal. Et il a fait les beaux-arts, il nous a
Ah
toujours
oui.
encouragés à dessiner. Quand on partait en vacances, il nous mettait dans les mains des petits carnets pour dessiner. Et on s'arrêtait, on dessinait assez souvent comme ça. Après, il m'a pas encouragé à en faire mon métier. C'était censé juste être une passion, mais ça l'a un peu débordé.
Et
Mais oui, il m'a
quand tu
encouragé,
dis
ouais.
t'as pas encouragé à en faire ton métier, c'est que lui, de son côté, sortant des beaux-arts et tout, il savait ce qui pouvait t'attendre, et du coup, il insistait pas trop, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Il voyait bien que artiste ou auteur de BD, c'était pas le truc le plus simple. D'ailleurs, c'était un peu vrai.
Oui, ça l'est
Mais
toujours peut-être.
ouais, il n'était pas à fond. Mais après, une fois que j'ai commencé à en faire, ça, j'ai aussi d'ailleurs commencé à faire des BD en plus de mon boulot de salarié, quoi.
Ouais.
Et puis au final, quand ça a commencé à vraiment me plaire et à un peu fonctionner, j'ai lâché le boulot de salarié, ouais.
Et quand tu dis tu avais un boulot de salarié, et que après c'était tes études qui t'ont amené à faire graphiste, ou justement tu as essayé de
Non.
trouver une alternative entre le dessin, le design graphique, et peut-être ben, en ayant en ligne de mire peut-être de vivre de la BD un jour?
Ça a été un long cheminement. En fait, moi, j'ai fait Sciences Po à Toulouse et j'ai fait un master journaliste. Et j'ai
Oui.
commencé par faire ça. Mais en marge de ça, bah, je continuais à dessiner. Donc, j'ai trouvé l'idée de faire du dessin de presse. Ça permettait
D'ailleurs,
de dessiner quand même en étant journaliste.
ouais, totalement. D'ailleurs, je le répète, hein, il y aura des redites si vous écoutez la première interview d'Ulysse et Gaspard sur C'est toi la radio, mais voilà, on refait une mise à jour, donc vous inquiétez pas, voilà, c'est normal qu'il y ait des redites. Et on a acté qu'à chaque nouveau projet, Ulysse viendra et Gaspard viendront parler sur C'est toi la radio, donc on va se répéter souvent.
Ouais.
Non, mais ouais, et au moment où toi t'étais en études de journalisme, ça a
Ouais.
été une évidence pour toi de partir sur du dessin de presse, ou plus que le côté rédactionnel?
Bah en fait, c'est marrant. J'écrivais, j'avais un peu lâché le dessin depuis des années. C'était en 2005, il y avait les émeutes à l'époque dans les banlieues.
Oui.
Et il y avait le journal de l'école de Sciences Po. Et moi, je voulais parler de ça, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Et finalement, j'ai su comment l'exprimer en dessin. J'ai proposé à la rédaction du Canard un dessin de presse. Et ça a bien plu, ils l'ont mis en une et tout. Et après, suite à ça, je me suis dit, mais c'était cool de faire ça. Ça me permet de m'exprimer, en fait, avec peu de mots. Et c'est un
Ouais.
truc que je sais faire. depuis longtemps en fait, mais j'avais jamais pensé le mettre dans un journal et l'utiliser comme ça pour raconter des trucs. Moi, je dessinais avant juste pour le plaisir. Et après, j'ai reproposé ça et j'ai commencé à en faire. Et après, j'ai fait du dessin de presse pendant 7-8 ans, à côté de mes études, puis à côté de mon taf. Et après, de ce dessin de presse, ça m'a donné des opportunités pour des boulots de graphiste, parce que bah, je taquinais Photoshop, je commençais à gérer les tablettes et tout. Et donc j'ai bossé un peu en tant que graphiste, j'ai fait des piges de graphisme chez Canal+. Donc j'ai lâché le journalisme, après je suis devenu graphiste slash dessinateur de presse, puis dessinateur de presse slash dessinateur de BD, puis maintenant dessinateur de BD. Et je fais du graphisme quand même à côté animé.
Ouais.
Graphisme vidéo, mais la BD prend de plus en plus de place, ouais.
Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience, que ce soit au niveau artistique, hein, de ta manière de dessiner, voilà, de ta façon de t'approprier un sujet aussi, de ce moment où tu faisais du dessin de presse?
Aller à l'essentiel, faire. Que le dessin. Alors après, du coup, c'est un tort des fois. Moi, mon éditeur arrête pas de me dire de prendre plus mon temps, de poser plus les scènes, de développer mieux les intrigues et les personnages. Et j'ai tendance à aller à être hyper concis. C'est ce qu'on demande à un dessin de presse, d'être efficace en une demi-seconde et qu'on comprenne et qu'il n'y ait pas de fioritures. Donc j'ai ce truc que j'ai appris du dessin de presse d'aller vite et d'aller à l'essentiel. Je pense que.
Alors que maintenant tu fais des BD qui font 100 planches faciles.
C'est clair. Maintenant, je me lâche.
Tu te
Ben ouais,
lâches
c'est
bien.
clair. De plus en plus en plus.
Si vous avez des questions hein, dans le chat, faut pas hésiter, hein, surtout que bah, je crois que t'es le seul dessinateur presse qu'on ait eu sur la chaîne. Donc si vous avez des questions sur cette partie-là, faut pas hésiter. Hein. Et pareil, est-ce que dans les sujets que tu dessinais à cette époque-là, est-ce que tu avais un sujet principal ou t'essayais d'avoir l'actualité dans son ensemble, ou est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais pas du tout aborder et d'autres sur lesquelles tu te réservais de dessiner des trucs aussi?
Non, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de tabou. C'était l'actu du moment, l'actu dont tout le monde parle, rebondir là-dessus. Non, justement, c'était assez ouvert et c'est le plaisir du métier de dessinateur de presse, c'est que ça change tout le temps. Et ça permet de découvrir de nouveaux thèmes, s'intéresser à des nouveaux sujets en permanence, quoi, en collant l'actu. Donc non, je crois pas qu'il y avait de prédilection.
Ouais, et bah vu comment t'en parles, on voit bien qu'il y a un cheminement jusqu'à, voilà, t'es passé de journaliste écrit à dessinateur de presse, graphiste et dessinateur de BD. Y a une évolution, en tout cas un changement. Est-ce que c'est parce que tu sentais une lassitude ou au contraire, pareil, c'est naturel, c'est venu comme ça et c'est tes envies qui ont primé?
Alors c'est les envies qui étaient là et j'avais pas le temps de le faire à côté et donc ça commençait à pousser fort dans le monde de la BD. Enfin, j'avais envie d'y aller de plus en plus à fond. Après c'est vrai que j'ai eu un peu un truc. J'ai commencé à être enfin à faire du journalisme. J'avais fait un stage de 6 mois au Canada à l'époque et j'étais dans la colonne culture. Et j'allais voir tous les gens qui faisaient des trucs pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et je me disais, putain, mais moi, j'ai envie de faire un truc aussi, quoi. J'ai envie de passer de l'autre côté. Donc j'avais ce côté-là aussi. J'ai des scénarios en tête, j'ai des dessins. Et aller voir des gens qui font des trucs, ça m'a trop donné envie, en fait.
Quand tu dis aller
Donc,
voir des gens, c'est que de ton métier de journaliste,
ouais.
tu allais voir des personnes du milieu, ou est-ce que toi, personnellement, tu étais aussi adepte, vu que tu me disais que voilà, tu aimais beaucoup la BD franco-belge dans ta jeunesse? Est-ce que c'était déjà un truc qui était en toi? Et avant que tu répondes, je dis merci à Olive Noctua pour son raid. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. J'espère que ton live s'est bien passé. Des monstres, ils s'aiment fort, oh dis donc, de l'art. En tout cas, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien depuis le Watt, hein, il me semble. Et bienvenue tout le monde, installez-vous. Moi c'est Mara, on fait des interviews d'artistes ici, et aujourd'hui je reçois Ulysse Gris. Vous pouvez voir quelques planches qui défilent, il est dessinateur et il va nous parler de sa dernière BD. Mais voilà, donc bienvenue tout le monde, installez-vous, profitez, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Et oui, bienvenue. Ils sont trop gentils dans mon chat, ils disent bienvenue au raid et tout, avant que je le dise et tout, vous êtes adorables, c'est trop bien. Du coup, voilà, ma question, si tu l'as retenue, parce que moi, j'ai perdu le fil déjà. Hein. Voilà, bravo. Non, je disais que, justement, si c'était via ton métier de journaliste que t'as eu l'occasion de rencontrer des gens du milieu, ouais. Ou si c'est personnel, toi en tant que amateur, dans le sens que tu aimes la BD, tu es allé, je sais pas, à des festivals, à des rencontres, à des dédicaces, etc.
Alors, un peu les deux. Donc, en tant que journaliste, j'ai interviewé plein d'artistes et un peu comme toi, quoi.
Voilà, et ben voilà, je t'embauche si tu veux.
Voilà, nickel. J'arrête la BD, je reviens journaliste par contre maintenant. Donc, j'ai eu cette occasion-là, mais après, petit, c'est vrai que j'habitais à La Rochelle, donc pas loin d'Angoulême, et j'allais souvent au festival pour essayer de rencontrer des auteurs, essayer de montrer mes BD. Alors, j'avais 13 ans. Elle était forcément pas du tout publiable et les éditeurs, je crois que je les ai plus rigolés qu'autre chose, mais ouais, je leur présentais pas mal de projets.
T'as un souvenir en particulier de ces moments-là? Est-ce que qu'est-ce que tu leur avais montré? Tu leur avais montré des histoires ouais. À toi. C'était quoi déjà ces histoires? C'était de la SF? C'était du réaliste? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'était?
Alors... C'était de la SF, ça. J'avais un héros qui s'appelait Michael Smithers, c'était mon double, c'était le double SF, qui voyageait avec son grille-pain, je sais pas, c'était un peu n'importe quoi, son grille-pain avait des décharges électriques qui faisaient voyager dans le futur et dans le passé, dans des dimensions parallèles, ça n'avait aucun sens, j'écrivais ça, j'avais 14 ans, et j'écrivais ça un peu en roue libre, et donc j'aurais proposé ça, j'ai quand même fait deux tomes de ce truc, qui sont juste des tomes imprimés et reliés par moi-même... dans ma chambre, qui n'ont jamais eu de plus de vie que ça. Donc j'avais proposé à des éditeurs, donc ont été gentils de les regarder, mais qui en gros revient dans longtemps.
je vois bien. Et ouais, donc quand la transition avec le métier avec la BD s'est effectuée, ça s'est fait avec quel projet? Est-ce que ça a été tout de suite un monde en pièces ou pas du tout?
Ouais, ça a été un monde en pièces. Alors, monde en pièces, ça a été long parce que ça a eu plusieurs formes.
Oui.
Au départ, ça a une forme. Enfin, au départ, c'était une BD qui s'appelait La psychose de Korsakov, qui était pas sur les échecs, mais qui était un homme qui était fou, mais c'était un humain. Et en fait, j'avais vu ça. La psychose de Korsakov, c'est une maladie que peuvent contracter des grands buveurs d'alcool. Et à un moment, leur cerveau disjoncte totalement et certains peuvent avoir une amnésie totale. Ils savent plus qui ils sont, ils savent même plus comment manger. Ils savent plus rien de la vie, quoi. Et du coup, c'était l'histoire d'un mec qui avait eu ça, qui se réveillait dans le désert tout seul, tout nu, et qui redécouvrait toute la vie. Et il avait des fois des grands moments de grand délire. Et un de ses derniers rêves un peu délirants comme ça, c'est qu'il arrivait enfin dans une ville en quittant le désert. Et cette ville, il imaginait les gens avec des têtes de pions, et des têtes de tours, et des têtes de cavaliers, et que tout était un grand jeu d'échecs. Et il mettait la BD à comprendre qu'il n'y avait pas de fou dans ce monde, et que c'était lui qui était complètement fou. Voilà, donc ça, c'était mon histoire. Ce projet de psychose de Korsakov a petit à petit évolué, notamment grâce au conseil de mon frère. Il m'a conseillé de virer ce mec tout nu dans un désert pour garder que le rêve de fin qu'il avait, qui était donc cette ville peuplée d'échecs sur un plateau géant. Et donc j'ai proposé plusieurs versions à plusieurs éditeurs dans plusieurs années de suite, quoi. Au début avec le gars, puis sans le gars, puis après complètement... c'est devenu en noir et blanc, puis après j'ai demandé à mon frère de m'aider.
Tu veux dire qu'il y a une version couleur quelque part d'un monde en pièces?
Ouais, les versions couleurs, alors avec en plus des persos en plus qui sont pas des joueurs d'échecs, donc c'est pas des pièces d'échecs, et que je garde chez moi, il y a 10 pages, que c'était à la peinture. C'était un peu nimp, mais
Oh là là.
c'était. Je montrerai peut-être ça un jour, mais ce n'est pas mon emplace, quoi.
Il y a de l'exclu quelque part, en tout cas.
Ouais.
Bah ouais, parle-nous un petit peu de cette relation que t'as eue pour créer cet univers avec ton frère. Un peu de la genèse, rappelle-nous un petit peu comment ça s'est passé, peut-être aussi un peu bah, le scénario, le pitch de base, parce que tu nous en as expliqué, mais ça a beaucoup changé depuis. Je
Ouais.
rappelle aussi que trois tomes sont déjà édités chez Presque Lune, toujours, et que c'est très cool, voilà. C'est une... Ça reste un coup de cœur de tout instant pour moi. Donc voilà,
Très sympa.
je vous invite à aller voir. Et il y a le site internet, évidemment, qui est très cool aussi.
Merci beaucoup. Mon pièce, c'est notre monde en fait transposé sur un grand jeu d'échecs où la plupart des gens seraient des pions. Et on aurait des grosses têtes toutes rondes comme des pions d'échecs dans un monde noir et blanc, dans une grande ville sur le bord du plateau. La plupart sont des pions. Il y a les cavaliers qui, eux, font respecter la règle du jeu. C'est les forces de l'ordre. C'est une ville très très normée comme ça. Il y a ceux qui vont de travers, qui sont les fous, qui sont diagonalistes et qui essaient de changer les règles, ils n'arrivent pas à aller droit. Il y a les tours qui sont des pièces plus importantes aux échecs et qui du coup dirigent dans notre petit monde avec le roi qui trône dans son palais. Et donc on a toute une ville comme ça qu'on voit évoluer. Et on découvre au tout début du tome 1 qu'il y a un autre plateau, le plateau du jeu de dames qui est à côté. Et le plateau du jeu de dames est en guerre. Il y a une partie des dames qui doivent migrer, qui se retrouvent à être obligées de migrer sur le jeu d'échecs. Elles sont plus ou moins mal accueillies sur le plateau. Et c'est le départ de toute notre saga.
Et dis donc, c'est
Et ça,
politique tout ça.
c'est très politique, ouais. En fait, ouais, on sent que le journaliste derrière n'est pas mort.
Non,
Il y a
mais
un peu de ça, ouais.
c'est cool. Et comment s'est passée bah, votre réflexion à vous deux? Comment vous avez travaillé parce que bah, voilà, j'ai déjà eu des artistes qui ont travaillé avec des scénaristes qui ne se connaissaient pas de base, etc. Vous, bah, vous êtes de la même famille, hein, jusqu'à preuve du contraire.
Ouais.
Et voilà, le projet, il le connaissait déjà, ton frère. Et donc, bah, comment il s'est intégré à ça et comment il a mis sa patte? Et puis toi, comment tu as retranscrit ce qu'il souhaitait?
Ben en fait, avec mon frère, on est très liés, on s'entend hyper bien, on a les mêmes références, on a quand même grandi vraiment ensemble. Et donc, il suivait mes projets BD à chaque fois, hyper sympa, avec plein de petits conseils. Je galérais un peu quand mon projet est devenu un peu plus d'ampleur, où c'est devenu une grande ville géante avec plein d'intrigues et tout. Je me perdais, je savais plus quoi faire avec tous ces personnages et tout cet univers. Il avait toujours des bonnes idées. Et à l'occasion d'un voyage, on était partis au Cambodge ensemble. Et on avait beaucoup de temps dans des bus et tout. Et je lui avais proposé d'utiliser ce temps pour, s'il voulait, m'aider à l'écrire. Et on a passé le voyage à faire ça. C'est marrant, on avait à chaque fois qu'on voyage, on a un petit carnet où on écrit ce qui se passe. Et de l'autre côté du carnet, en commençant par l'inverse, là, on écrivait le scénario. Et au final, on a plus écrit le scénario que le voyage. Et on s'est dit on commençait vraiment à tenir un bon truc. Et là, à partir de là, on s'est pas là, enfin, on a plus lâché le projet, on s'est mis à deux à fond dessus. Et on l'a développé. Et alors au départ, on n'a pas trouvé d'éditeur. Et c'est devenu un site internet, c'était un site web au départ.
Alors, avant qu'on parle du site web, justement,
Ouais.
comment. Parce que, pareil, depuis que tu es venu, ça va être redondant ce que je dis à chaque fois, mais depuis que tu es venu, bah, c'est toi, la radio a beaucoup changé, évolué. Des nouvelles personnes sont arrivées dans le chat, coucou tout le monde. Et du coup, on a pas mal d'artistes, on a pas mal d'auteuristes de BD ou de dessinateuristes également. Comment s'est passé ce moment où vous avez essayé de démarcher des maisons d'édition? Est-ce que c'était pas trop difficile? Est-ce que vous êtes arrivé avec votre projet et ça a été refusé direct? Est-ce qu'on vous a demandé de retravailler des choses et vous n'avez pas souhaité peut-être?
Ouais, alors
Tout ça.
on a.
Oui.
Non, mais ouais, c'est un ouais global à tout ce que tu dis parce qu'on a pris pas mal. Bah, on a pris un nombre de refus assez énorme au début. Alors, on s'est pas découragé, mais on a fait plusieurs salves d'envoi, quoi. Genre, On envoyait à beaucoup d'éditeurs, on avait soit des pas de réponse, soit des refus. Donc on retravaillait notre truc, on l'améliorait, parce qu'entre-temps, on avait de nouvelles idées. Des nouvelles idées de dessin, de nouvelles idées de personnages, d'intrigues, pourquoi pas faire. On a tout d'un coup. Et on va développer la tangente avec les fous et tout. Enfin voilà, donc on retravaillait notre projet, puis après, au bout de 6 mois, on le reproposait. Et c'était toujours des refus. Et on a quand même eu quelques rendez-vous, et notamment un mec là qui nous avait. Bien bâché, mais ça nous a fait du bien. C'était un vrai coup dur, ça. On a mis un petit mois à s'en relever, ce qui nous a vraiment dit que c'était pas. Il y avait plein d'erreurs graphiques, plein d'erreurs de scénario, plein de choses qui allaient pas. Mais au final, il avait raison et on a mis du temps à le comprendre. Et après, on a pris en compte ses remarques et on a retravaillé tout notre projet de fond en comble. Donc voilà, ça a été un long process, un monde en pièces. Et pas mal de refus, mais alors après, au début, on envoyait aux éditeurs les plus gros parce que c'est ceux qu'on connaissait et qui nous faisaient rêver, parce qu'on connaissait pas encore bien le milieu de la BD. Qu'on envoyait à Dargaud, à Casterman, à Delcourt et tout ça. Et en fait, c'est pas forcément. C'était des refus, mais c'était aussi, ils nous disaient votre projet est intéressant, mais ça rentre pas dans notre ligne éditoriale, ou c'est pas vraiment ce qu'on fait, nous, on sait pas où le placer. Et donc, petit à petit, on a affiné la recherche, quoi, et nos envois. Et pour trouver un éditeur, alors bon, finalement, comme on ne trouvait pas, on l'a mis sur Internet totalement. On a créé ce site en animation GIF et on se.
C'était aussi une évidence pour vous de passer par Internet. Alors peut-être qu'à cette époque, il n'y avait pas tout ce qui s'appelle Webtoon maintenant et tout,
Non.
mais c'était une évidence pour vous de proposer la BD gratuitement sur Internet, ou vous avez réfléchi à pourquoi pas proposer quelque chose, ne serait-ce qu'en financement participatif ou etc.
Voilà. En fait, nous, on suivait pas mal le blog de Boulet à l'époque, et lui, il mettait tout gratos, et on trouvait ça très cool, il avait fait des trucs un peu en scroll comme ça, il était vachement bien, et comme on ne trouvait pas d'éditeur avec notre BD, ça faisait déjà 4 ans qu'on la refaisait, on s'est dit, bah tant pis, on sera pas édité, mais au moins on aura des lecteurs, on va la mettre sur le net, et puis sur le web, et puis on verra bien, au moins comme ça, si des gens aiment bien, tu vois, ça sera déjà quelque chose, ce sera pas juste dans un carton. Dans mon studio, quoi. Donc non, alors on n'a pas pensé à. Alors on s'est dit si. Ou alors financement participatif, on aurait pu le faire maintenant, après coup. Pareil, Webtoon n'existait pas, donc maintenant il y a plein de BD qui se font en scroll comme ça, et maintenant il y a une économie pour ça. À l'époque, il n'y avait que dalle, donc on l'a mis, on l'a posté sur Facebook, parce que c'était l'époque de Facebook, c'était en 2000, 2016. On postait chaque semaine un épisode, enfin un lien qui est renvoyé sur notre site. Et on a tout balancé comme ça, mais on avait quand même dans l'idée, c'est ce qu'on a fait, de s'inscrire au Festival d'Angoulême, parce qu'il y avait une catégorie BD Web.
Ah, ok.
Ouais. Et on a bien fait parce qu'on a été sélectionnés. On a fait partie des 10 sélectionnés là-bas, donc ils nous ont invités à Angoulême. Alors on n'a pas été lauréat. Mais on a pu là-bas rencontrer on a même fait du speed dating d'éditeurs. Putain, ça c'est. Il y avait un truc comme ça, il fallait se lever à 6h du mat et faire la queue
Au
avec dans
secours!
le froid, parce qu'on est en janvier à 6h du mat à Angoulême, c'est pas le pas le top.
Tu m'étonnes. Ah, pardon, voilà.
Ah
Bah
ouais,
ouais,
c'est la
tu.
loose, avec ton carton à dessin et t'attends, et puis tu vas chez voir les éditeurs
Oh là
qui
là.
mettent.
Ouais,
Ouais.
je vois bien le style. Mais ça, est-ce que ça avait fonctionné pour vous,
Mais
ce
non, c'est
moment-là?
l'enfer. On a vu des mecs qui nous ont dit qu'il fallait le mettre en couleur.
Oh non, mais non, mais.
Ouais, les gars, il faudrait le mettre en couleur, ce serait vachement mieux. Bon. Du coup, on a laissé tomber et on s'est barré. Mais Angoulême, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait. C'est ça qui a été déterminant. On allait dans la bulle, parce qu'il y a plus, ça se fonctionne en bulle à Angoulême. Il y a des bulles où il y a plein d'éditeurs qui montrent ce qu'ils font. Et on a fait la bulle des éditeurs indés. Et on a repéré tous ceux qui nous paraissaient, enfin qui nous ressemblaient un peu, quoi, qui avaient une ligne éditoriale un peu qui pouvait matcher avec un monde en pièces. Et là, on leur a envoyé à cela notre projet. Et il y a presque l'une qui a répondu au final qu'ils étaient grave intéressés, de donner rendez-vous dans un bar à Paris, et on a signé avec eux.
Trop bien. Alors,
Voilà,
dans
donc
le
ça a mis 5 ans,
chat,
je crois.
Dans le
Quoi?
chat, je lis le chat en même temps.
Ouais.
Alors déjà, bonjour le technicien. Il y a Manu qui, Emmanuel Pedon qui est dans le chat et qui dit il regarde le site, il est très très cool. Le côté animé sur le site est incroyable
Merci.
et il dit que la bulle Nouveau Monde c'est les meilleurs, c'est la meilleure. Voilà
Bah, elle est
déjà.
bien, c'est vrai que c'est vraiment trop cool là-bas.
Mais ouais, parlons du côté animé du site. Pareil, comment vous l'avez pensé ce site et les images qui... Ouh, pardon, je m'entends en double. Je reprends ma voix toute douce. Comment vous l'avez pensé? Est-ce que pareil, le fait d'animer certaines cases, ça rendait la chose plus dynamique et vous aviez envie d'avoir ce côté-là et quitte à utiliser un écran pour que les personnes le lisent, autant que ça soit interactif?
Ouais, c'est ça. En fait, moi, à cette époque, je bossais chez Canal+. J'étais graphiste là-bas et dans le service web, c'est pour le Canal+.fr. Et donc, j'étais assez branché là-dessus. Et j'avais vu, c'était Boulet encore qui avait fait un truc en GIF qui était vachement cool, qui s'appelait Ma Toyota Fantastique. Une BD qu'il avait sortie sur son blog vers en 2015-2016, où il mettait des petites animes comme ça, un peu. Mais assez discrète et ça faisait un effet de ouf et je voulais faire pareil pour un monde en pièces et donc alors à l'époque j'avais pas les parce que maintenant j'ai des logiciels d'animation After Effects et tout mais là c'est fait sur Photoshop donc c'est image après
Ah
image
ouais.
ouais c'est un peu artisanal donc là le sapin qu'on voit qui bouge et vraiment il y a 8 images que j'ai fait bouger et que j'ai mis en une demi-seconde
La patience. C'est
donc
pour
c'est
ça que c'est pas
absolument
toutes les
clair.
images qui bougent.
Ouais, c'est ça. Et aussi pour pas que ça fasse sapin Noël, pour qu'on
Oui.
puisse lire. Après, sinon, en fait, si on met trop d'animes, je trouvais que ça faisait dessin animé du pauvre. Tu vois, alors que moi, je voulais que ça reste une BD, c'est une BD fixe, avec quelques petits effets et ça suffit pour qu'on imagine que tout soit animé. Sinon, on bascule dans le dessin animé, je trouve. Donc, je voulais garder cette économie d'effets. Et après sur le scroll, bah nous, sinon il y avait à cette époque le Turbomédia, donc c'était des BD qui se
Oui.
lisaient sur le web, mais on défilait vers la droite ou la gauche. Et nous, bah, en fait, l'utilisation du web qu'on avait, c'était du scroll quoi, sur des sites, sur des smartphones et tout. Donc pour nous, ça nous paraissait plus évident de le faire en scroll. Donc on a combiné les deux techniques et voilà, c'est devenu un monde en pièces.
Trop bien. Bon, on va continuer un petit peu sur un monde en pièces. On va passer à la suite rapidement parce que le timing. Mais là, tu disais que bon, il y a 3 tomes qui sont sortis chez Presque Lune. Vous pouvez les commander chez vos libraires, les amis. Et le quatrième est en cours. Est-ce que vous pensiez que ça allait durer aussi longtemps?
Non, alors on n'était pas sûr d'en faire plusieurs. On avait dans l'idée de. Nous, on avait de quoi en faire plusieurs, mais on ne savait pas si le 1 allait fonctionner ou faire un gros beat. Donc on n'était pas sûr de ça. Après, nous, notre tête au départ, c'était une trilogie. Et en fait, on a trop d'idées. Et on essaie de pas, justement, j'essaye d'arrêter d'être concis et de tout ramasser, de faire des trucs plus. De plus maîtriser, quoi, donc de prendre plus le temps, de développer bien toutes nos histoires, toutes nos intrigues, et du coup, ça va tenir en 5 tomes. Là, on est sur le quatrième que bah, justement qu'on rend samedi, là, qui part samedi à
Ouh là
l'impression.
là.
Ouais, ça, c'est les derniers réglages, je suis sur la couve. Donc voilà, là, ça chauffe un peu. Mais le quatrième sort bientôt, et donc le cinquième, ça sera, ouais, la fin. Et
Est-ce
donc, on aura mis 10 ans, un truc comme ça.
Ouais, bah ouais,
Ouais.
ça fait bien. Sachant que c'était autre chose avant, mais c'était toujours le
Ouais.
projet principal, mais ouais, ça commence à dater. Moi,
Totalement,
en lisant la BD, justement, enfin, en lisant les tomes, je me demandais si après ça, ou peut-être que t'en as marre, hein, enfin, vous en avez marre, vous me direz, mais est-ce que vous pensiez faire un spin-off, partir sur un autre plateau ou faire quelque chose encore en rapport ou c'est trop tôt pour le dire.
alors, c'est un peu tôt pour l'instant, on veut finir notre cycle, tu
Oui.
vois, on a une histoire qui se termine. Mais après, on va bien faire une bonne pause. Et puis, si jamais on se remet dessus, dans plusieurs années. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Une autre histoire, reprendre l'histoire par un autre endroit ou un autre moment, ou peut-être un autre plateau, effectivement. Il y a pas mal, on a déjà pas mal d'idées pour tout
Ouais,
avouer.
ça. Oui, puis voilà, l'univers se prête bien à ça, en tout cas, comme
Et
vous
ouais,
l'avez
l'univers n'arrête
posé
pas
et
de
tout,
s'agrandir, donc on
totalement.
a plein de trucs.
Voilà, donc vous l'aurez entendu ici, les amis, pour la première
Peut-être
fois. Voilà, c'était
un jour,
l'exclu.
ouais.
On se rappellera d'ici là, sûrement. Donc ouais, là le projet Monde en pièces est en stand-by dans le sens où bah, le prochain tome va bientôt sortir, vous êtes sur les finitions. Après tu continueras direct sur le prochain tome ou il y aura d'autres projets entre-temps comme tu vas
Alors,
nous en
c'est une bonne
présenter certains?
question parce que j'ai un projet en tête là qui me trotte en tête. Alors, je suis pas sûr encore de le faire, donc je vais pas dévoiler ce que c'est. Et puis, il faut que ça mûrisse un peu dans ma tête. Mais j'ai un projet qui peut être très cool sur un mec en cavale. On va dire ça comme ça. Mais alors, est-ce que je le fais avant le tome 5 ou pas? Je sais pas. Il faut que j'en parle avec Gaspard. Il faut qu'on voit. Parce qu'en fait, nous on aime bien faire des petites pauses quand même entre deux un monde en pièces, parce que pour laisser reposer le truc, puis l'actu change, ça nous inspire aussi. Si on enchaîne tout de suite, on est un peu trop dans la même veine. Donc là, je pense qu'on va faire une petite pause au moins jusqu'à, je pense, novembre-décembre, avant d'écrire le tome 5, même si on a déjà en fait la fin et tout, mais pour vraiment dans les détails, toutes les scènes et tout. Et donc moi, ça me permet peut-être dans cette pause de développer un autre projet. Mais je suis pas sûr, donc
Ok, bon,
voilà. Je sais pas dans quelle ordre je vais le faire,
on
mais j'ai déjà
reste.
un projet perso, ouais.
Ouais, on reste branché. Et ton frère, entre-temps, il fait quoi, lui? Parce
Il fout
que. Il fout rien,
rien.
c'est ça? Bah voilà,
Il fout
pareil, vous l'aurez entendu
rien.
ici. Inadmissible.
Non, mais Gaspard, lui, il bosse à fond, il a un taf à côté. Il bosse dans une agglo du 93,
Ouais.
Est ensemble,
Il
et
n'a
il
pas
est.
d'autres projets de scénario, mais pas avec toi.
Non. Ou alors en cachette, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être c'est pour ça que je ne vois pas depuis un petit moment. Non, je sais pas. Non, mais non, a priori, il est vraiment à fond sur un monde en pièces et salut.
On lui fait un bisou, évidemment. Et puis bah quand la saga sera terminée, vous reviendrez, on en reparlera ici avec grand
Avec
plaisir.
plaisir.
Et donc, moi, je vous ai connu avec un monde en pièces et tout. Toi, entre-temps, tu as fait autre chose. Tu me disais qu'avant ta dernière BD, là, pour quelques degrés de plus,
Ouais.
t'avais eu un autre projet. Alors, qu'est-ce qui s'est fait entre-temps?
Alors, j'ai fait une BD qui est sortie en 2020 qui s'appelle La Revanche des espèces menacées.
Alors, mais
Donc, c'est.
je me demande si tu nous en avais parlé il y a
Ah,
3 ans.
c'est possible.
C'était déjà en projet, peut-être.
Je l'avais, ouais, je l'avais
Ouais.
peut-être en tête ou j'avais peut-être déjà commencé, je ne sais plus trop, mais oui, ça se tient. Si on s'est vu à 3 ans, elle est
Oui.
sortie il y a 3 ans, 2 ans. Donc, ouais, il y a moyen. Et c'est une BD qui a été pré-publiée chez Mediapart. Et qui après est devenu un album. Et c'est une BD. L'histoire, c'est que les animaux en voie de disparition, en fait, ils disparaissent pas, mais ils se cachent pour préparer la revanche sur les humains.
Ouh là là.
Donc voilà. Donc on suit le Front Libération des espèces menacées, qui est mené par le président Dodo, le dernier Dodo, qui mène les animaux pour essayer de inverser la vapeur et se rebeller contre l'humanité. Et c'est pas facile, facile.
Bah,
Donc voilà.
et c'est une bonne transition avec la dernière BD que tu as faite. En plus, là, je vois que c'est pareil en bichromie.
Ouais.
Comment tu l'as pensé aussi, cette BD? Ah, pareil, au niveau de ton dessin, tu t'es tout de suite dit que tu allais la faire non pas en noir et blanc, mais en bleu et blanc. Et puis, c'était pareil, naturel dans le sujet, dans la façon dans ton état d'esprit du moment.
Ouais. Alors le dessin, je voulais pas que ce soit. Enfin, je voulais sortir du noir et blanc un monde en pièces. Alors, je ne suis pas parti très loin, je suis parti sur le bleu. J'ai mis du
Ouais.
temps à mettre à la couleur.
Oui,
Là, je
mais
suis enfin
voilà,
à la
mais
couleur.
c'est par étapes, parce qu'après, il y en a de la
Et ça,
couleur. Hein.
ouais.
Vous allez voir qu'il y en a de la couleur, mais.
Ouais, après, il y en a plein. Là, je me suis lâché. Moi, j'ai besoin de passer par plein de petites
Les
étapes.
paliers, tu
Et
sais.
le format de la revanche des espèces menacées, en fait, bah, Mediapart, ça fait longtemps que je bosse pour eux. Je fais des dessins d'illustrations d'articles ou d'enquêtes. Et ils m'avaient glissé. Si jamais un jour, tu as un projet perso, n'hésite pas. Ça pourrait nous intéresser. Et je cherchais quelque chose et je voulais parler d'écologie, notamment des espèces menacées, parce que c'est pas forcément un sujet dont on parle tout le temps quand on parle d'écologie, alors l'extinction du vivant et les espèces qui disparaissent. Et du coup, c'est venu, vu que c'était pour des publications sur Mediapart, donc sur un média, c'est passé sous la forme de gags en fait. C'est des gags c'est des strips, donc des strips de comme on
Ouais,
peut voir
t'as...
dans les journaux à l'ancienne, les petits strips à la fin en trois cases. Donc là, c'est en trois quatre cases, c'est ça. Donc Mediapart, c'est que sur le web, donc là c'est des strips, c'était en scroll avec la dernière qui est animée. Donc j'avais un peu gardé ce concept de gif animé d'un monde en pièces. Et il y a eu deux saisons chez Mediapart, comme ça ils en ont publié une vingtaine je crois. Et je me suis dit que j'avais matière d'en faire une BD. Si je le développais un petit peu, j'ai proposé à mon éditeur qui était Direct Show et voilà. Donc La Revanche des Espèces Menacées est sorti un an après. Ça fait, je crois, 70 pages. C'est un petit format. Donc c'est des petits gags comme ça et qui à chaque fois abordent un thème lié à la disparition des espèces. Donc la pollution plastique, le réchauffement, l'acidification des océans, des trucs comme ça. Et en bas, il y a un petit laïus qui raconte vraiment comment ça se passe
Dans
en
la
dehors
vraie
de la
vie.
blague. Voilà.
Et du coup, ça, c'est des sujets qui te parlent et qui te tiennent à cœur. Voilà, parce que t'es passé de ça, et on parlera après pour j'allais dire quelques dollars. Je savais que j'allais la faire, le quelques dollars de plus, quelques
C'est exprès.
degrés de plus. Mais ouais, c'est des sujets qui te touchent et résonnent en toi, et c'est pour ça que tu souhaites en parler, ou pareil,
Bah ouais, non, moi je
c'était
trouve que c'est un.
dans l'actualité, et comme t'avais pas encore déconnecté peut-être avec ton ancien métier, tu t'es dit je vais faire ça.
Il y a un peu de ça, effectivement. Alors, c'est des sujets qu'on n'a pas abordés dans Un monde en pièces, que c'est plus une coloration sociale,
Oui.
Un monde en pièces, même si le tome 4 aborde un gros côté écolo. Vous verrez ça. Petit exclu aussi. Mais
Waouh.
non, en fait, ouais, c'est des sujets, je me dis. Enfin, j'ai pas envie de me réveiller à 60 ans en me disant que j'ai rien foutu. J'ai fait des BD pour le plaisir et j'en ai pas parlé, quoi. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose, ça devient vraiment plus qu'urgent, et c'est vraiment un truc de ouf ce qui nous attend, et ce qui est déjà en train de se passer, j'ai l'impression qu'il faut qu'on en parle tous, quoi. Il faut faire quelque chose, donc moi, à ma mesure, bah, je fais de la BD, donc j'essaie dans mes projets perso d'en parler. Alors ça veut pas dire que je vais faire ça tout le temps, je fais aussi des trucs peut-être plus perso un jour, mais là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une urgence, et je veux participer à sensibiliser les gens là-dessus, quoi.
Est-ce qu'il y aura un tome 2 de ça, ou est-ce que t'as ton partenariat avec Mediapart s'est terminé avec la première salve?
Alors avec Mediapart, je sais pas, mais c'est marrant que tu me dis ça parce qu'il y a mon éditeur qui m'a proposé là il y a le mois dernier d'en faire une suite
C'est parce que
sous
parce que
forme.
je suis au courant de tout, sache-le.
Ah mais
Voilà,
c'est toi qui as initié le truc, c'est toi qui tiens les ficelles.
je suis partout, hein, c'est ma réputation, voilà,
C'est ça. Non ouais, il m'a proposé ça sous forme de grande histoire, donc bah à voir. À voir si ça me chauffe, si j'ai de quoi le faire. Il faut que enfin, j'y ai pas encore réfléchi, vu que là on est dans le tome 4, puis le tome 5, puis d'autres trucs. Mais il y a cette idée aussi en l'air de faire une suite des espèces menacées. Ouais.
Enfin, Mara, à vous, mais non. C'est
À vous.
j'aime avoir cette réputation, comme ça les gens se méfient.
Je fais gaffe à ce que je dis.
Voilà. Et ben, en tout cas, ouais, on va rester branché sur ce projet-là également, parce qu'en plus, voilà, graphiquement, ça rend super bien avec ce bleu. Enfin, Litena le disait, hein, bleu et blanc, ça rend si bien. Donc, ouais, c'est trop bien. Bon, bref, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais on va arriver tout doucement à ton actualité brûlante. Avant de parler vraiment du bouquin en lui-même, est-ce que tu peux déjà nous parler de la genèse, de comment ça a germé en toi, cette BD, et puis après nous en faire un pitch, et on en parlera un peu plus longuement.
Ouais, alors comment ça a germé? En fait, bah du coup, je me suis de plus en plus intéressé à l'écologie avec mon projet d'avant, et donc sur le climat. Et c'est cette affaire de degré, en fait, que les gens, notamment mes parents, maintenant ils ont compris, mais n'arrivaient pas à comprendre qu'un degré de plus, c'est pas juste un degré de plus, mais c'est vraiment un monde totalement différent, quoi. Si on passe de 2 à 3 ou à 4 degrés, ça n'aura rien à voir. Et c'est vrai que c'est compliqué à comprendre parce que c'est des chiffres, c'est des rapports du GIEC qui sont énormes. Et même si on prend la peine de les lire, c'est quand même très complexe. Et je me suis dit qu'il fallait que je voulais aborder ça, quoi, après avoir fait les espèces menacées. Et en y réfléchissant rapidement, là, en fait, la phrase est venue, quoi. C'est une affaire de quelques degrés en plus et ça change tout. Et la phrase et pour quelques degrés de plus est venue. Et de là, pour quelques dollars de plus, je me suis dit qu'il y avait un lien à faire et peut-être placer ça dans une ambiance western, dans le futur, où les gens ne cherchent plus un trésor, mais de l'eau, quoi. Et je me suis dit, mais tant qu'à le faire, autant aller à fond pour quelques degrés de plus. En fait, ces trois histoires, si le monde a pris 2 degrés, si le monde a pris 3 degrés ou 4 degrés, c'est trois histoires parallèles que je pourrais mettre sur la même page. Et quitte à lire le GIEC, en fait, le GIEC, ils font des scénarios, ben on va les utiliser. Ça va être eux les scénaristes, quoi. Et du coup, je suis parti de tout ça et j'ai retravaillé le truc dans tous les sens et c'est devenu pour quelques degrés de plus où on suit en parallèle trois histoires de la vie de Josh Harper, si le monde a pris 2, 3 ou 4 degrés en 2100. Et c'est de plus en plus galère pour lui. De trouver de l'eau et en fait en faisant le projet, après les histoires se recoupent, se superposent et enfin après c'est devenu complètement un grand délire. Mais ouais, c'est venu en fait de cette idée de parler des degrés et puis du titre qui m'a amené rapidement sur la voie, quoi.
Très bien, tu as très bien résumé tout ça. Il y a Manu qui dit pour la France, ça sera 4 degrés au final, on va prendre très cher. Et ben, je
Ouais,
t'invite
c'est chaud.
à lire la BD. Le scénario des 4 degrés, voilà, il fait bien
Et
flipper.
ouais, j'ai halluciné quand ils ont annoncé ça, que peut-être qu'on se préparait aux 4 degrés, sous-entendu, on lâche déjà l'affaire. Enfin, le GIEC, quand on lit c'est quoi 4 degrés, c'est un truc de dingue, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis pas allé plus loin, parce que 5 degrés ou 6 degrés, après, ça a plus de sens. Après, c'est juste
On n'est
c'est des
plus,
cailloux,
oui,
et
voilà.
il n'y a plus de personnages, quoi. Donc, ouais, c'est assez flippant, ouais.
Ah ouais, je vois bien. Comment s'est passé le moment? Enfin, là, on a vu qu'avec la BD d'avant, tu commençais à changer de crayon. Mais là,
Ouais.
passer du noir et blanc et vraiment à des gros aplats de noir, comme tu faisais sur Un monde en pièces, à
Ouais.
des gros aplats de couleurs, comme tu fais maintenant, ça n'a pas
Ouais.
été trop dur, ce challenge?
Ouais, j'ai mis un peu de temps à trouver le style et puis à trouver les palettes de couleurs. Alors, j'avais l'idée que après avoir fait du noir et du bleu, je partais dans le rouge. Donc, je fonctionne un peu sous forme de couleurs comme ça. Au début c'était tout rouge, maintenant j'ai quand même accepté quelques couleurs et donc ça a une teinte rouge, mais il y a un peu de tout. Mais non, en vrai je me suis éclaté à faire ça parce que ça m'a vraiment changé. Et puis c'est un dessin beaucoup plus rugueux qui est un peu arraché parce que je voyais ça comme ça, le futur va être un peu de plus en plus déglingue, donc je veux que le dessin le montre. Et ça a permis de. Ouais, c'est vrai que c'est. À mon pièce, c'est hyper clean, c'est hyper noir, blanc. Là, c'est un peu différent, ouais. Mais ça a pas été de. Non, ça a été plus un plaisir qu'autre chose.
Ouais, je vois bien. Bah, raconte-nous un petit peu l'histoire, parce que déjà l'objet est super cool, parce que bah, c'est une BD, je l'ai dans les mains, c'est une BD en format paysage,
Ouais.
avec justement, comme tu disais, trois scénarios par page. Donc c'est déjà un objet un petit peu insolite. Voilà, et raconte-nous un petit peu l'histoire et comment tu t'es lancé dans ce projet de trois histoires parallèles.
Alors ouais, donc c'est trois histoires parallèles qui suivent sur tout l'album. Donc l'album fait 140 pages, je crois. Donc sur le haut de la page, on suit le premier scénario. Sur les milieux de page, le scénario à 2 degrés, voilà, et le dernier, le scénario à 4 degrés. Je me suis lancé là-dedans. Alors ça a été un peu une galère, parce que faire trois histoires en même temps, je me suis
Ouais,
pas.
bah c'était ma
Ouais, je me suis.
prochaine question, c'était est-ce que tu as fait les trois histoires en même temps en parallèle ou est-ce que tu les as dessinées chacune leur tour?
Alors j'ai essayé de faire ça, de le faire chacune, mais en fait. Ça marchait pas parce que
Elle
si
se
tu trouves pas comment
Elles se
En augmentant
répondent
les
des fois,
degrés,
ouais.
ça va changer le truc. Tu te retrouves à avoir un scénario qui n'est pas transposable. Ah non, j'ai dû les faire les trois en même temps. Alors, ça a été un casse-tête de ouf. Et au final, je m'en suis sorti en fonctionnant avec des post-it. J'ai acheté des
Oh.
post-it de couleurs différentes. J'avais des jaunes, des roses et des oranges. Et chaque scène, tu vois, je mettais les post-it par terre, quoi, devant moi. Et tous les jaunes, c'était la trame du dessus, les oranges, la trame du dessous, et les roses, la trame la dernière. Et je pouvais écrire sur les post-it ce que j'imaginais. Et après, du coup, j'allais sur le cran d'en dessous, imaginer ce que ça pourrait être, et je voyais si ça fonctionnait ou pas. Et comme ça, je pouvais changer de post-it, recommencer et tout. J'ai écrit comme ça.
Ok, et bah parle-nous un petit peu de l'histoire et du personnage principal. Comment tu l'as imaginé ce perso?
Alors, il y a un petit côté Sergio Leone dans tout l'album, qui parcourt l'album, voilà. Donc il y a beaucoup de références un peu partout, donc il fallait que ce soit un mec solitaire dans son désert, qui est chasseur de primes dans le meilleur des cas, et puis dans le deuxième, il devient trafiquant d'organes à moitié... moitié sanguinaire, parce qu'il est devenu la brute, et dans le troisième, il est carrément truand, et là, il est fossoyeur, il est trafiquant d'os et de... Enfin, il est pilleur de tombes. Voilà, donc c'est de pire en pire, mais c'est le même personnage, et je l'ai imaginé assez clean dans le premier, et puis de plus en plus déglingue, donc à la fin, il a une barbe, un chèche, parce qu'il fait... Il fait 64 degrés, et il essaie de survivre. Donc lui, ce personnage, Josh Harper, on commence l'album, et c'est le jour de son anniversaire. Et il se met à la recherche de la dernière nappe phréatique de l'Ouest. La dernière nappe phréatique de l'Ouest, suivant que le monde a pris 2, 3 ou 4 degrés, elle est plus ou moins facile à découvrir. Il va rencontrer sur le chemin des personnages qui ont évolué eux-mêmes différemment selon la hausse de la température, donc selon l'univers dans lequel on se situe. Et en plus de ça, les univers peuvent interagir entre eux,
Oui,
selon.
il y a des petits moments de
Il y a
déjà-vu
des petits moments. Exactement.
et de frissons vraiment vraiment chouettes. Quand t'as proposé cette BD à Presque Lune, ou si c'est
Ouais.
peut-être Presque Lune qui te l'a commandé, je ne sais pas, tu vas nous le dire. Comment tu l'as vendue entre guillemets, comment tu leur as, parce que pareil, enfin. J'en ai lu un, hein, des BD insolites avec des formats un petit peu incongrus, mais comment t'as présenté le projet, et est-ce que bah, ça a été directement accepté? Est-ce qu'on t'a fait retoucher des choses? Est-ce qu'on t'a dit voilà, là ça va être un peu plus compliqué au niveau bouquin, parce que bah, on peut pas imprimer ça de façon très pragmatique, ou pas du tout, ou est-ce que ça a été fait de façon
Alors, je leur ai
fluide?
envoyé un dossier. Alors, j'ai galéré à essayer d'expliquer ça en texte, d'expliquer qu'il y aurait trois histoires différentes sur la même page qui se suivent et qui se superposent et tout, avec des premiers dessins. Et suite à quoi, bah, il m'a appelé tout simplement pour me demander
J'ai pas compris.
J'ai pas compris ce que tu veux dire. Et donc là, j'ai pu lui expliquer et ça l'a. Non, ça l'a chauffé. Il a trouvé ça cool dès le départ. Et puis maintenant, il me fait confiance, donc j'ai vraiment une super bonne relation avec mon éditeur, donc ça, c'est cool. Alors, il m'a demandé de prendre le temps de le développer, et il a assez suivi le projet. Notamment, c'est lui qui m'a poussé à un peu plus faire interagir les univers, que ce soit toujours surprenant, qu'il y ait toujours des surprises, qu'on peut rapidement s'habituer, même si le concept est un peu ouf, rapidement, une fois qu'on l'a compris, on peut se dire, ok, il va y avoir 100 pages comme ça, donc à chaque fois, essayer de casser le concept pour le renouveler, ce que j'ai essayé de faire tout l'album. Donc non, il m'a vachement suivi. Après, au début, là, c'était pas clair, et même dans ma tête, c'était pas tout à fait clair, ça a mis du temps à devenir ça, quoi. Au début, il n'y avait pas. Là, on voit, si vous voyez à l'écran, on voit les fonds. Par exemple, il n'y avait même pas ça au début. Au début, quand j'ai commencé à BD, c'était une page blanche avec dessus les dessins. Donc, on comprenait pas. On n'avait pas assez les strates, quoi. Ça, c'est venu au milieu de la création. Il y a eu beaucoup d'avancées. Ça a été. Enfin, c'est un projet c'est marrant à faire, d'ailleurs, parce que du coup, il a progressé en le faisant, quoi.
Bah c'est
C'est
ouais
vraiment le
c'est ça
dessin a changé, l'histoire a changé, j'ai changé les trucs.
ouais une éternelle voilà évolution, même
Ouais.
en plein milieu du projet, quoi. Et
Ouais.
au niveau de, enfin, quand t'as commencé à écrire et dessiner, est-ce que tu t'es mis un peu à la place des lecteurs et lectrices? Est-ce que tu te demandais comment ils allaient lire la BD? Est-ce que, alors moi personnellement, j'ai lu page double par page double, hein, donc genre la première ligne, la deuxième ligne, mais sur les deux pages. Est-ce que tu as eu des retours sur les parce que ça fait pas longtemps qu'elle est sortie, hein, mais est-ce que tu as eu des retours de lecteurs ou lectrices qui ont lu la BD un peu de façon anarchique, enfin chaotique, on va dire plutôt?
Carrément. Avec ma première dédicace là qui est venue et qui m'a écrit, lui il les lit histoire par histoire. Donc là il avait lu que la 1 et la 2 et le soir même il allait se faire la 3. Donc c'est un délire. Et ça j'ai jamais lu comme ça. Mais ça peut être marrant aussi parce qu'on refait l'histoire et elle est de plus en plus, enfin avec le curseur est monté un peu quoi.
C'est ça. Moi, j'ai hésité. Alors, au début, j'ai lu comme un livre. Hein, j'ai lu la page de gauche, ensuite la page de droite, et j'ai senti que j'étais pas à l'aise. En fait, que je manquais des trucs. Et au final, très rapidement, le fait de lire par bande de double page, c'était plus. Enfin, j'étais plus à l'aise à faire ça. Mais justement, je me suis demandé comment toi tu imaginais quand tu dessinais. Est-ce que pour toi, c'était plus logique de faire bande, enfin de lire bande par bande, ou plutôt voilà, de comme un livre classique, droite d'abord la gauche, ensuite la droite.
Non, pour moi, c'était fallait vraiment traverser la page, quoi. Il faut aller faire comme tu as fait. Bravo.
Bah voilà,
Et c'est
mais
vrai que j'ai mis des flèches au début, c'est censé se lire comme ça. Et pourquoi? Parce que sinon, si on revient à chaque fois au bout de. Même pas au bout d'une. Au bout de. Le haut de la page, si on revient direct à l'histoire d'après, on n'a pas assez avancé dans une histoire pour. Je trouvais que. On va tout le temps à la ligne, enfin on bute à chaque fois et on change d'histoire trop souvent en fait. Je voulais qu'il y ait quand même des moments où on est dans une histoire pour un petit moment avant de retourner. Et c'est pour ça que à un moment je me suis dit mais en fait je vais le faire à l'horizontale cet album. Ça va être un format paysage, un format à l'italienne comme on dit. Parce que comme ça, en lisant bande par bande, si c'est à l'horizontale, on pourra mettre plus de dessins et donc plus de textes et plus d'histoires avant qu'on change d'histoire, voilà. Donc c'est pour ça que le format est comme ça. Ça a été pensé
Ok, bon bah très
pour ça, ouais.
très bien. Encore une fois, pour le chat, hein, je vous invite à vous procurer la BD. Moi, elle n'était pas dans ma librairie, donc vous pouvez la commander. Voilà, ça arrive. C'est très bien distribué normalement aussi, mais vous pouvez. C'est un très bel objet. Voilà, les éditions Presque Lune, de toute façon, font des BD assez jolies à chaque fois. Hein, même Un monde en pièces, je pense que ça fait partie des BD les plus belles que j'ai dans ma collection. Donc
Ah mais ils
voilà.
font des beaux objets, c'est clair.
Ouais, le papier est très très cool. Enfin voilà, ne vous privez pas. Et quel est alors, sans parler de scénario alarmant et tout, quelle est l'histoire que tu as pris plus de fun à dessiner?
Bah c'est horrible, mais c'est la plus 4 degrés, c'est quand
Elle est déjantée, hein.
même. Ouais, elle est déjantée. Ça, ouais, qu'en fait, il n'y a plus vraiment de loi, il n'y a plus rien, il n'y a plus que. En gros, il y a des charognards, des serpents et de la drogue, quoi. Donc, il reste plus grand-chose. Et du coup, c'est la plus déjantée, ouais. Et c'était aussi sur le dessin la plus drôle à faire, où tous les personnages ont évoqué. Il y a notamment un des personnages clés qui est là qu'on voit à l'écran, qui est la vieille,
Oui.
Anita Buendia, qui est tantôt présidente des États-Unis, dans le meilleur des cas. Dans le deuxième, elle est. C'est une résistante, elle est passée dans la résistance armée parce que les gens n'ont rien fait et qu'elle se bat encore. Et dans le troisième, elle a lâché l'affaire, c'est une clocharde complètement sous drogue qui vit avec des anarcho-punks. Et donc il y a ce côté un peu fou dans le dernier qui m'a le plus. Enfin, j'ai pris le plus de plaisir à le faire. Après, c'est quand même le plus triste hein, au final, mais je voulais pas que ce soit trop triste. Je voulais pas que ce soit trop plombant comme album, donc je trouve que ça suffit. Déjà, on n'a pas besoin d'en faire plus, on comprend que ça va être horrible tout
Ouais.
ça. En le montrant comme ça suffit, je pense. Donc voilà, je l'ai traité de cette manière.
Ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que c'est dans le scénario plus 4 degrés qu'il y a un semblant de religion et un
Ouais.
truc. Il y a un truc.
Il y a un truc. Alors, c'est des frigos pentecôtistes. Eux, ils attendent le retour du froid. Et du coup, ils font des sacrifices pour, en espérant que, que la lune vienne affaiblir le soleil et qu'il puisse enfin baisser le. Que la température baisse un peu. Donc, ouais, ils sont assez dangereux. Hein. C'est vraiment des illuminés. Et c'est marrant parce que j'ai écrit ça, et puis là, c'est publié. Et puis là, je commence à voir des articles où en Espagne, je sais pas si tu as vu passer ça, il y a
Non.
des, maintenant, il y a des processions de la pluie.
Ah ouais, non, j'avais pas vu. Moi,
Ouais.
ça m'avait fait penser à. Alors, je sais pas si t'avais vu la série The Leftover.
Ah non, j'ai pas vu. Ça a
Bon.
l'air trop. J'ai pas vu. Ouais.
C'est trop cool. Et dedans, alors le pitch de départ, c'est que 2%, je crois, de la population a disparu. Manu, tu me rediras, je sais que tu es très fan de cette série. Mais une partie de la population a disparu. Mais voilà, tu me vois plus. Ils ont vraiment disparu. Il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit. Ils sont partis. Et on ne sait pas pourquoi. Et une espèce de. Deux religions se forment et c'est marrant parce qu'ils ont la même tenue. Enfin bref, si un jour tu regarderas, tu
Ouais,
penseras à moi quand.
va faire rouler.
J'arrive, ça parle de la meilleure série. Et ouais, mais c'est pas ça. Je parlais pas de la série. Je parlais de personnages qui m'ont fait penser. Ben, on les voit là d'ailleurs. On les voit dans la troisième case qui me font penser à un petit peu à ces personnes dans The Leftovers.
J'irai
Bon.
voir ça.
Oui, bah vraiment, 3 saisons, très très bien. Voilà. Par rapport à cette BD, t'as mis combien de temps pour la faire, pour la dessiner, pour l'écrire, même si le GIEC t'a aidé un petit peu.
J'ai gardé le top,
Combien
ouais.
de temps a pris ce projet et est-ce que ça n'a pas été. Même si tu avais déjà de l'expérience, ne serait-ce que dans tes métiers d'avant et dans la BD d'avant aussi, où c'est toi qui étais au scénario et au dessin, mais est-ce que ça n'a pas été trop difficile de faire une histoire de A à Z sans ton frère, j'allais dire, sans scénariste?
Ouais, bah si, si, c'est pas facile de faire développer des intrigues, créer des personnages, tout. Moi, je galère un peu, donc bah là, je me suis aidé du GIEC, comme tu dis, voilà. J'ai remplacé mon frère par 2600 scientifiques. Mais non, bah, alors après, j'avais ce concept de base assez affirmé, quoi, donc qui était une triple histoire, donc ça m'a quand même guidé pas mal. Mais ensuite, non, ça a été assez long. En fait, le plus long, ça a été l'écriture. Là-dedans. Après le dessin, je pense que l'écriture, j'ai mis 5 ou 6, j'ai mis 6 mois et le dessin, j'ai dû le faire en 4 mois, quoi. En
Ah
gros,
oui.
j'ai mis un peu ça. Ouais, ça doit ressembler à ça.
Et c'était direct du numérique, t'as pas, parce que ça fait très très peinture, hein, même on voit hein,
Ouais.
les coups de brush comme ça. T'as pas du tout fait de moment en traditionnel sur cette BD?
Non, aucun.
D'accord, bon bah.
Maintenant, je suis passé ouais, à la
Full
tablette
numérique.
et je m'éclate pas mal dessus. Donc, c'est sur iPad avec
Ah
Procreate.
bah voilà, tu fais partie
Ouais.
de cette branche-là.
Ouais. Là, c'est ouf. Hein. Moi, je trouve ça.
Non,
Avec
mais
le
t'es pas le
logiciel,
seul aussi.
c'est dingue.
Je
Ouais.
pense et beaucoup de personnes qui sont arrivées ici. Alors, on a un tableau Excel, normalement des tablettes graphiques, des
Ouais.
artistes qui viennent ici. Non, en vrai, je sais pas du tout si Métos a vraiment un tableau Excel. J'ai un des viewers qui me fait croire qu'il a un tableau Excel où il note ça. Mais bon, je n'ai pas de preuve. Mais maintenant, ça reste la blague. Et du coup, on a beaucoup de personnes qui sont restées sur Wacom et compagnie. Mais
Ouais.
beaucoup ont eu ce petit basculement sur iPad et Procreate. Ça a été un game changer pour beaucoup de gens.
Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment un game changer. Moi, j'ai fait le tome 1 d'un monde en pièces sur Wacom,
Ouais.
et peut-être le 2, mais après, je suis passé. Ouais, bah là, on dessine directement dessus, ça va, c'est hyper fluide, ça va à fond, il y a plein de brushes, enfin, c'est beaucoup plus rapide, je trouve. Après, je vais pas faire la pub d'Apple plus longtemps que ça,
Non, mais
mais.
voilà, t'inquiète. De toute façon, hier, ils ont annoncé une paire de lunettes à 5000 euros. Tu peux.
Ouais,
C'est
c'est
pas. Ils
ça.
sont pas à ça près, hein, t'inquiète.
Ouais, ils sont bien, c'est vrai.
Bonjour, Chakarts. Et ok, bah ouais, t'as mis 4 mois au dessin. T'es revenu sur des moments du scénario après avoir terminé?
Oui. J'ai notamment il y a une phase tu as bien lu, il y a un moment, ce n'est plus divisé en trois, mais c'est des
Oui.
pages entières.
Oui.
Du personnage, voilà, donc j'ai cassé ce rythme à ce moment-là. Donc, ça, je voulais. apporter une espèce de respiration comme ça à ce moment-là. Ça permet de développer plus facilement les personnages aussi. Et puis les dessins de la fin, il y a plein de grandes pleines pages
oui.
que j'ai rajoutées aussi pour ralentir la fin. Et puis en fait, mon éditeur m'a bien suivi et puis m'a proposé aussi à des moments de ralentir tel moment, de
ouais.
que les histoires dès le, dé... enfin, le début, il avait bien aimé, mais qu'à un moment, il trouvait que ça allait trop vite, que là, c'était pas assez bien maîtrisé, des trucs comme ça. Donc, je suis revenu pas mal sur l'histoire. Ouais.
Et sans spoiler, est-ce qu'il y aura un spin-off sur la bouteille de cristalline?
Ah, j'aimerais. C'est une très bonne idée, ça.
Parce que tu nous as mis du suspense hein, dedans et tout, mais voilà, t'as essayé de nous expliquer, mais moi je veux la version longue hein, de tout ça.
C'est vrai qu'on avance un petit peu sa vie, qui est palpitante, hein. Elle
mais
traverse quand même l'océan, cette petite bouteille d'eau. Donc ouais, par contre, peut-être un spin-off sur quelques degrés de plus, tu vois, si on continue à rien foutre, peut-être que je pourrais faire une BD 5, 6, 7 degrés, quoi.
Mais ouais, parce que tu l'as pensé en one shot, hein, il y a bien une fin à la fin, justement, hein, pour si les ouais. personnes ont peur d'une nouvelle série en 10 ans. mais est-ce que tu t'aimerais partir sur peut-être, alors soit un spin-off très alarmiste et qui va sûrement arriver, hein, voilà quand je dis ça, mais ou alors partir sur d'autres sujets liés à l'environnement, peut-être encore une fois à la condition animale ou à d'autres sujets liés au social, à la politique et tout. Est-ce que tu as des idées comme ça?
Sur l'environnement, j'ai envie de faire un peu une pause, notamment parce que le tome 4 d'Un Monde en Pièces sera aussi là-dessus.
Ouais.
Donc là, j'ai bien donné avec ces trois derniers albums. J'aimerais bien partir sur autre chose, mais j'ai pas encore de truc bien défini.
Mais ouais. C'est vrai qu'on en a pas redit, on l'a pas redit pour Un Monde en Pièces. Je vous invite à aller voir la première interview de Ulysse avec son frère Gaspard sur C'est toi la radio. Mais oui, Un Monde en Pièces, c'est on suit une histoire d'un personnage, mais tous les sujets dessus, ça parle de personnes réfugiées, ça parle de racisme, ça parle de politique, ça parle de complot, de trucs,
ouais.
Voilà, ça parle de plein de choses et ça résonne beaucoup, hein, en plus dans ce qu'on vit en ce moment même. Alors déjà, il y a 3 ans, c'était déjà d'actualité, mais là, ça résonne aussi ouais. De nos jours. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, t'as déjà la tête dedans, quoi.
Ouais, c'est ça, j'ai déjà la tête dedans. Et là, le suivant, pareil, va bien résonner, je pense, avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, je sais pas, là, sur les prochains projets, écoute, pour l'instant, je ne sais pas trop.
Ouais.
Je me laisse un peu de temps, je me laisse l'été pour déjà souffler, parce que j'en sors 2 cette année, là.
Ouais.
Donc, il y a celle-ci qui vient de sortir, Les Degrés de Plus, et puis il y a Mon Empièce qui va sortir le 15 septembre. Et du coup, on fera toute une tournée de dédicaces, de festivals et tout, donc ça va pas mal nous occuper aussi.
Ouais, d'ailleurs, ouais. Bah, tu me fais une transition parfaite,
ouais.
Parce que regarde, il est 44, mon timing est parfait aussi. Voilà, les mauvaises langues vous diront que sur C'est toi la radio, on fait que des interviews de 3, 4, 5 heures, mais quand j'ai un timing serré, je sais le faire aussi. Hein.
Ça.
Mais ouais, quelle est la suite pour toi, déjà la vie pour quelques degrés de plus,
ouais.
et ensuite ouais. après pour Un Monde en Pièces.
Eh bien ouais, alors, les degrés de plus, là pour quelques degrés de plus, je fais le lancement, il est sorti vendredi en librairie, donc il y a 5 jours, et là samedi prochain, je fais une soirée de lancement dans une librairie dans le 19e, donc si des gens habitent pas loin, c'est la librairie Vignette, qui est avenue Jaurès, qui est tenue par des filles très cool, et donc ça sera un lancement, la dédicace est de 16h à 19h30, et puis mm-hmm. après ça sera une soirée dans la librairie. Donc ouais, ça va être très cool, et donc c'est open à qui veut. Et la semaine d'après, j'ai 3 dédicaces, j'en ai le mercredi 14 juin, je serai à la rubrique à Bulle dans le 11e, vers entre 17 et 19h. Le 16, tout l'après-midi, je serai à Montreuil, à Storybulle.
Ah ouais.
La rue de l'église, ouais, et le 17 à Bulle en Tête, qui est dans le 17e.
Très
voilà,
bien.
Donc ça, Et ensuite, je pars en vacances. Voilà,
Bien
à la fin
mérité,
du
il
mois
me
de juin.
semble. Alors attends, parce que du coup, je viens de voir que. Hop, attends. Attendez cette réalisation aux petits oignons. Regardez, on est sur l'Instagram d'Ulysse et tout est écrit là. Voilà.
Ah ouais. Non, complètement.
Donc,
Plus
parfait.
Ah oui, je rajoute que je serai le 8 juillet à 3. Voilà,
Ok.
Bidibule. Ouais.
Ah oui,
Les
là
gens sont.
c'est que le mois de juin là qu'il y a sur la
Ouais, c'est
publication là.
ça.
Donc
Ouais, du 3.
voilà, vous avez tout ici sur les réseaux de Ulysse. Je vous invite grandement à aller le follow sur Instagram. Voilà, il fait de super vidéos pour promouvoir sa BD en plus, elles sont rigolotes. J'ai l'impression que tu t'es éclaté pour les faire. Je me
Même
sens
moi.
pas visée. Ah ben, je dis pas ça pour toi à chaque carte, hein, même si je sais que t'avais voté contre moi au boîte sur toutes les parties timing. Et coucou Nathalie Julie, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, non, non, le timing est serré, je le tiens. Mais voilà, et donc, et pour Un monde en pièces, la sortie le 15 septembre. Alors je sais pas si c'est une exclue ou ça avait déjà été annoncé, mais en tout cas maintenant vous le savez.
Non, c'est une exclu, c'est vrai qu'on l'a pas encore annoncé,
Voilà.
mais
Bon
on vient
bah.
d'apprendre aussi que c'est le 15 septembre. Voilà.
Bah parfait, ça, vous l'aurez entendu sur cette toile radio en premier. Et puis bah, vous allez aussi faire la tournée des festivals ou des librairies.
Ouais.
C'est
Ouais,
prévu?
grave, à la rentrée, on va faire Quai des Bulles, donc ça c'est à Saint-Malo.
Ouais.
Le 15 septembre, il y a le festival de Besançon où on sera aussi. Et puis on va faire, je crois, le festival de Colomiers qui est en novembre. Et puis on sera Angoulême. Et puis Antes, je pense qu'on va faire plein de librairies à l'occasion du tome 4. Ouais. Alors j'ai pas encore de date là.
Très bien. Là, le temps que je vois qu'il y a des images qui bougent, tu disais que tu avais aussi un autre projet à côté où tu faisais plus de l'animation. Est-ce que
Ouais, voilà.
c'est...
C'est vrai
Ouais.
que
Tu peux
ouais, je
en
suis passé
parler
des
si tu le
animations
souhaites.
GIF Photoshop à des trucs un peu plus chiadé. Je me suis formé sur After Effects et donc je fais du motion design. Et j'ai monté avec un pote une boîte de motion design qui s'appelle Flim. Et on bosse. On a bossé un peu pour Mediapart et puis là on bosse pas mal pour France 3.
Trop bien.
Et voilà, on propose des animations. Alors ça peut être pour des assos, ça peut être pour un peu tout. Pour des médias, pour des boîtes. Et donc on peut faire tout plein d'effets vidéo sur du texte, sur du graphisme, sur des dessins. Du coup, je peux faire animer des dessins. Et voilà.
Bah, trop bien, voilà, bah, vous savez qui appeler maintenant.
Voilà.
C'est trop chouette. Est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour de mise à
Ouais,
jour de ta vie, de ton œuvre, Ulysse?
on est bien là,
Ouais.
on a tout parcouru.
Bah ouais, ça passe vite dans tous les cas.
Ouais.
Il nous reste 10 minutes, on change pas les habitudes qui gagnent, pour parler de nos coups de cœur artistiques du moment. Donc bah déjà, quand tu étais venu, on en avait parlé. À l'époque, je l'ai demandé en avance. Maintenant, je fais la surprise aux gens. Mais voilà, si tu as voilà des coups de cœur du moment, des choses que tu as lues, vues, etc., n'hésite pas à nous
Ouais.
partager ça.
Bah alors en BD, moi je conseille La couleur des choses. Alors c'est pas original, c'est ce qui a gagné Angoulême cette année, mais que je trouvais hyper cool. C'est Martin Pichot qui fait ça.
Yes.
Martin Panchot. Et particularité, c'est qu'il ne dessine pas, ses personnages sont des ronds. Et c'est voilà, c'est là on le voit là. C'est complètement ouf. Et l'histoire, donc ça fait un peu GTA à l'ancienne, on est vu de dessus comme
Ah
ça.
oui, d'accord.
Ouais, et alors là on voit pas bien, il y a aussi des décors, voilà, et en fait c'est fou parce que les ronds prennent vie et l'histoire elle est vraiment hyper prenante, et graphiquement ça devient assez fort, et c'est vraiment trop bien. Donc ouais, moi je
C'est
conseille ça,
sorti
j'ai
chez
adoré.
ça et là.
Ouais, et le gars est hyper sympa. Et sinon, là je suis en train de lire Carbone et Silicium.
Ah, oh, enfin, j'ai envie de dire.
Je suis en retard, ouais, j'avoue.
Je crois que t'es pas le seul il est pas là la personne qui est incriminée dans le enfin n'est pas là, je sais. Ah si, peut-être, je crois que Volta l'a lu finalement. Je sais qu'il avait mis longtemps un pote
Ah ouais, mais c'est
à lire
trop bien,
ça.
mais moi je suis à fond là, j'ai quasi fini, je trouve ça
Oui.
extraordinaire.
Ouais,
Il est trop fort, ouais.
Mathieu
Mathieu.
Bablé, voilà,
Ouais.
c'est sa dernière BD en date, sachant qu'il est en
Ouais.
train de dessiner Silent Jenny, qui sortira, je crois, je sais plus si c'est 2024, 2025 ou 2026, je sais plus. Mais en tout cas, qui va sortir, il a sa chaîne Twitch maintenant. sache-le. Si tu veux le voir dessiner et être un petit peu vénère, alors regarde dessiner.
Ah, mais ouais. Dessiner,
ouais, ça fait longtemps qu'il a pas streamé parce que je pense qu'il est en retard, mais okay. Il est pas passé sur alors Manu. Mathieu Bavlé, comment dire? il est censé venir, mais j'ai pas de réponse. Voilà. Il a dit oui, mais il a jamais répondu. Voilà. Mais c'est un petit peu ma marotte. Hein. Le jour où Mathieu Bablé passera sur Cette Toile Radio, je pense que ça sera la fin de Cette Toile Radio. Je l'ai déjà dit à plein de gens. Mais voilà, ça sera fini. Non, mais ça, je lui ai proposé plusieurs fois et je pense qu'il est très très occupé. Et en fait, à chaque fois, je pense qu'il oublie de me répondre. Et voilà.
Ouais, mais des albums costauds aussi, ça fait, je sais pas, 250 pages, ces trucs.
Non, ouais, ouais. C'est. Mais voilà, on reste un peu dans un thème environnement aussi, même si voilà, il y a des robots. Mais on suit une terre un peu dévastée par tout ça et donc ouais, ça t'a plu, tu l'as lu récemment là?
Ouais, mais je suis en train de le finir là.
Ah, tu as kiffé.
Je suis vraiment dedans, c'est hyper bien.
Il a pas sorti Midnight Order, il était sur, c'est un collectif et je sais pas s'il a dessiné dedans ou s'il a juste été chef de projet en gros. Mais Manu te répondra mieux que moi. Et moi j'ai lu Adrasté de Mathieu Bablé un petit peu plus en retardement. Ouais. Alors ça fait longtemps que je l'ai lu, mais qui est une superbe histoire aussi. Graphiquement c'est magnifique. Attendez, bah regarde, je prends la parole à Adrasté.
BD. Il y a Shangri-La aussi qui est hyper cool.
Ouais, ouais, ouais. Et Adrasté, voilà, il y a des superbes planches et tout. J'ai adoré de bout en bout, c'est trop bien. Voilà. Et tout est dans la même collection et le plus des éditions du label 619 avec maintenant qui sont chez Rue de Sèvres et avant chez Ankama, c'est qu'ils font des BD magnifiques. Et oui. Pas si cher finalement, parce que je crois que Carbone et Silicium c'est 20 euros, je crois, un truc comme ça, d'eau toilée. Enfin, c'est. Ouais. C'est. Voilà, c'est un peu d'argent, mais pour ce que c'est, ça coûte presque rien, ouais, comme dit le technicien. Là récemment, moi, je ne l'ai pas encore lu, j'ai eu Guillaume Saint-Gelin sur Cette Toile Radio, mais j'ai acheté Frontier, sa dernière BD qui a l'air incroyable. Ah oui. Et pareil, beaucoup de pages et très peu cher pour ce que c'est. C'est qu'il y a une édition géante à Drasté, ultra limitée. Oui, je l'ai vu, j'ai vu le prix, il me l'a envoyé. Vas-y, tu me saoules. C'est bon. J'ai vu le prix, j'ai fait bon, c'est pas mon pote, moi. Mais t'es chanceux, vraiment, elle était super cool, cette version d'Adrasté, hyper limitée. Je crois qu'il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs palais de limitation, disons. Enfin bon, voilà. Encore un petit coup de cœur, Ulysse ?
Écoute, qu'est-ce que j'ai Si, moi j'ai lu un super bouquin, il a un nom qui va me prendre, je pense, 7 minutes.
Vas-y.
Il s'appelle Paco Taibo Ignacio Dos, c'est un auteur mexicain qui est
C'est le nom de l'auteur, ça ?
C'est le nom de l'auteur, ouais.
Ouais, alors le livre, du coup.
Ouais, le livre s'appelle Memville sous la pluie, et c'est hyper sympa. C'est un petit polar mexicain hyper marrant. Et en fait, lui, c'est un auteur mexicain que je suis depuis un moment, parce qu'il a commencé par être scénariste de BD.
Comment t'as dit Melville ?
Memville. Ah. Ouais.
Memville.
Memville, ouais. La même ville sous la pluie.
Mais je comprends rien, en vrai. Pardon.
Ouais. Memville. Same city.
Same city, c'est bon.
Voilà.
Ok. Très bien. Rivage noir. C'est un polar ?
Ah, c'est ça, voilà.
C'est du polar ?
C'est du polar, mais un peu absurde.
Trop bien. Ouais. Bon voilà, moi ça, je te fais confiance, je garde l'onglet pas loin et je vais regarder ça avec attention. Frontière, chef d'œuvre aussi, moi je vois ça comme une réponse à Shangri-La. Ah trop bien, ok.
Ah, c'est ce que le libraire m'a dit.
Eh tu vois, c'est cool, je vais regarder ça, je vais lire ça bientôt. J'étais sur d'autres choses en même temps et j'ai lu pour quelques degrés de plus, je peux pas tout faire. Et puis de toute façon, j'attends Mathieu Bablé sur Cette Toile Radio et je lui en parlerai. On parlera avec Guillaume Saint-Jean aussi. Bon, Ulysse, je te remercie. C'était très cool encore une fois.
Merci à toi. Ouais, c'était très cool.
Je vais remettre un petit peu les images de ta VD, hop, pour finir. On va aller faire un raid. Hein. Alors, je sais que tu n'es toujours pas très adepte de Twitch, mais on va envoyer notre chat sur une autre chaîne. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Acheter pour quelques degrés de plus, c'est une superbe idée. En plus, vous avez trois histoires en une, que demande le peuple, c'est trop bien. Et
Ouais.
puis, voilà, c'est un superbe objet. Les dessins sont magnifiques. Et l'histoire est déjantée. Donc, voilà. Et ça fait
Merci
peur
beaucoup.
aussi en même temps.
Ouais.
Ouais. Et le chat, merci à vous. Je vous donne rendez-vous maintenant dans très longtemps, puisque ça sera le mercredi 21 juin. Mais je mettrai tout ça dans les sur les réseaux sociaux. En attendant, moi, demain, c'est enregistrement du podcast X-Files. Je vous en parle à chaque fois. Mais voilà, je participe avec le coin pop. Manu Pedon, qui est ici sur le chat, fait partie des camarades avec Guigui et Mehdi Achouche, et on fait ce podcast tous les mois pour parler de toutes les saisons d'X-Files. Et Zelda va trouver un moyen de t'amener sur Doctrice, je suis sûre. Ah, mais je suis pas là! Je ne suis pas là, donc ça sera un non, je suis désolée, ça me brise le cœur. Mais voilà, donc le podcast X-Files, allez écouter ça, c'est sur le coin pop. On parle des heures et des heures sur toutes les saisons, une à une. Là, on va enregistrer sur notre deuxième partie sur la saison 6, qui sera diffusée en septembre. Voilà, merci beaucoup le chat, on va aller faire le raid. Comme à chaque fois, je vais vous remettre la bande-annonce du label Mixtape et vous allez kiffer. Je vous invite à aller les suivre sur Bandcamp et à précommander l'album. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Attendez. Ah bah attendez, je vais rendre l'appareil à Lixi qui raide souvent ici. On va aller voir Lixiviasio sur sa chaîne. Elle doit faire du react, je pense. Faites-lui un bisou sur son chat. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Gros bisous le chat et merci encore Ulysse.
Merci à tous.
Radio.